Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous. C'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13. Un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Nous accueillons aujourd'hui Romain Datchari et Paul Leschclos, garde naturaliste à la réserve naturelle du Marais d'Orx. Bonjour messieurs, comment allez-vous ?
Bonjour.
Bonjour. Ouais. Ça va plutôt bien, ouais, merci. Merci.
Très bien. Alors, on est content de vous recevoir. On va parler un petit peu de ce petit bijou qui est pas très loin de chez nous, que beaucoup de gens chez nous adorent. Hein. Et il y a une grosse actualité en plus, donc voilà, vous êtes là aussi parce qu'il y a une grosse fête d'anniversaire qui se prépare et on est invité. Voilà. On va passer une petite heure ensemble à parler de tout ça, hein, de votre réserve naturelle et de son actualité. On va faire un petit saut pour écouter le flash info national et international et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, c'est parti pour notre émission. Donc, on retrouve Paul et Romain. La tradition ici, c'est souvent quand les invités viennent, on leur pose des petites questions un peu sur leur trajectoire personnelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie avant ? Qu'est-ce qui a fait qu'ils occupent les fonctions qu'ils occupent maintenant et qui font qu'ils sont maintenant devant nos micros ? Est-ce que vous voulez bien vous livrer un petit peu à nos auditeurs, qu'ils aient une idée de savoir à qui ils ont affaire ?
Dieu.
C'est Romain.
Ouais, donc moi Romain. Je suis issu de Saint-Martin-de-Seignanx, pas très très loin. J'ai toujours eu un goût pour la nature. J'ai grandi en face d'une forêt et donc depuis mon enfance je suis dedans. Mmh. Et après je me suis dirigé vers un BTS en ostréiculture précisément.
Oui.
Et puis après ça, en fait, je me suis dit, il faut que j'aille voir la nature, mais sauvage. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai repris la fac et voilà jusqu'à un master en gestion protection de la nature.
D'accord.
Et puis depuis 10 ans maintenant, je travaille au Marais d'Orx en tant que garde.
D'accord, très bien. C'est au tour de Paul hein, de raconter un petit peu sa trajectoire.
Ouais, moi je suis un local, donc je suis originaire de Saint-Vincent-Tyros et passionné depuis tout petit. De faune et de flore et j'ai fait mes études au lycée agricole de Saint-Christophe à Saint-Pé-sur-Nivelle et j'ai eu la chance très vite d'exercer mon métier en tant qu'emploi jeune sur la réserve naturelle mais du courant du Chais pendant quasiment
bel endroit aussi.
Ouais, très très beau.
Oui,
ouais, très
oui.
Diversifié, très très beau pendant plus de 15 ans avant d'être muté sur la réserve du Marais d'Orx dans le cadre d'un projet de conservation sur une espèce de rapace.
D'accord. Très bien, merci. Votre fonction, c'est quoi exactement en fait ? C'est quoi votre métier ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien ?
Alors nous les gardes, sur la réserve du Marais d'Orx, on fait presque tout, je dirais. On est vraiment des couteaux suisses, on a l'habitude de dire ça. Ça va de la gestion courante du site, de l'eau, des sentiers, ce genre de choses. Mmh. Mais on a vraiment quand même trois grosses missions nous gardent, c'est les suivis scientifiques, les études et suivis qui peuvent se faire d'espèces, la gestion des milieux naturels. On a un volet aussi police de l'environnement puisqu'on est sur un site réglementé et un volet pédagogie avec des animations à la fois grand public mais aussi scolaire. Voilà. Donc on va dire qu'on a trois grandes missions, mais après quand on regarde dedans, en fait, ça couvre énormément de choses.
Et oui, c'est assez large. Donc il y a le côté garde au sens garde comme garde-pêche, garde-chasse, c'est-à-dire la personne qui se porte garant de l'intégrité du site, hein, on va dire.
C'est ça.
La partie pédagogique aussi, c'est pas évident. Ça demande aussi des connaissances et des compétences dans la transmission. Et puis voilà, il faut savoir de quoi on parle. Voilà, très bien. Et alors donc le Marais d'Orx, la première question, mais comment se porte-t-il ? On est il fait un peu gris là, ça sent un peu la fin d'été. Qu'est-ce qui s'est passé cet été au Marais d'Orx ? Est-ce qu'il a souffert de l'été ? Quelle est l'évolution par rapport au réchauffement climatique ? Le genre de questions qu'on peut se poser par rapport à une zone humide comme ça.
C'est vrai qu'on a subi de fortes chaleurs comme partout en France. On a eu quand même un peu de chance sur le littoral et de pas connaître vraiment ces 40 degrés pendant plusieurs jours sur le marais, grâce à la brise et au vent, et qui a quand même limité la montée en température. Et c'est vraiment important pour nous parce qu'on a quand même des eaux en fonction des plans d'eau sur lesquels on se trouve sur le marais, où on a des hauteurs d'eau très différentes, et on a notamment un qui peut chauffer très très vite, et il peut y avoir des conséquences directes sur la mortalité de poissons, qui peut engendrer d'autres problèmes après chez les oiseaux. Et on a eu un cas de, un petit cas de mortalité de poisson finalement comme ouais. tous les ans et qu'on a, c'est le seul et qu'on a finalement bien géré et donc on s'en sort finalement très très bien quand on voit ce qui s'est passé dans de nombreux plans d'eau français, hein, aussi bien sur la mortalité poisson que la mortalité des oiseaux en raison de la prolifération de toxines botuliques.
D'accord. On, parle, ah oui.
On a beaucoup parlé de la Loire Atlantique où il y a eu des zones humides où il y a plus de 10 000 oiseaux qui sont morts. Mmh. C'est des phénomènes qu'on n'a pas connus et normalement l'épizootie devient, enfin, touche à sa fin, donc on devrait être épargné et on oui. croise les doigts. Oui. Le fait que le temps ait changé, qu'on se dirige vers l'automne et...
Alors c'est vrai qu'il y a plein de lacs de zones baignables qui ont été interdites cet été à cause des cyanobactéries. Alors ça c'est dû essentiellement à quoi ? Trop de soleil, trop de chaleur, donc du coup il y a une forme de prolifération et puis prolifération de plantes aussi qui se battent un petit peu peut-être avec les poissons. Ils meurent de quoi les poissons ? D'une température d'eau trop élevée ou d'un manque d'oxygène dans l'eau ou les deux ?
C'est souvent lié, si on prend la dernière question sur les poissons, oui des eaux chaudes ils ont du mal à les supporter. Dans ces eaux chaudes, on a en fait une eau chaude va avoir une concentration en oxygène, une disponibilité en oxygène qui est plus faible qu'une eau froide. Mm-hmm. Donc du coup, il y a une anoxie aussi qui va se créer. Mm-hmm. Ces eaux chaudes aussi vont augmenter la prolification des maladies qui touchent ces poissons. Voilà. Donc en fait, une eau chaude va entraîner beaucoup de choses néfastes pour les poissons. Mm-hmm. Et si on prend la problématique cyanobactéries, sur des eaux chaudes et peu renouvelées, c'est là aussi où c'est ce type d'algues va se développer. Et ce type d'algue peut libérer des toxines aussi. Voilà. Alors ça nous, le marais d'or, c'est des cyanobactéries, on la retrouve un peu partout. Donc au marais d'or, on n'est pas épargné. Mm-hmm. Mais on voit que sur beaucoup de plans d'eau en France aussi, elle est là. Et c'est une problématique qui se découvre pas aujourd'hui, mais qui aujourd'hui se mesure. Et c'est quelque chose auquel on fait beaucoup attention. Et je pense qu'on en entendra encore parler dans les années qui arrivent.
Mm. Bien. Malheureusement, je crois, oui. On parlait un petit peu l'historique du marais d'Orx, hein, parce que ça commence il y a longtemps, cette zone. Alors, évidemment, souvent, quand dans les Landes, quand on parle de Landes, d'eau, on parle souvent de certains Napoléons aussi, qui arrivent à un moment donné de la conversation. Mais c'est vrai qu'on fête les 30 ans. Hein, voilà, on va fêter les 30 ans. Hein, donc, ça va être une partie de l'émission. On va parler, bien sûr, d'une sacrée fête que vous organisez avec vraiment des attractions, des ateliers, etc. C'est vraiment super. Et du coup, l'histoire, ces 30 ans, il y a 30 ans, c'était comment le marais d'Orx ? Qu'est-ce qu'il y avait ? C'était une zone cultivable ?
Non, il y a 30 ans, elle était redevenue un peu plus naturelle. Mm-hmm. Mais dans les années 80, début des années 80, elle était encore cultivée. Mm-hmm. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça.
Oui.
Et ce qui a changé dans ces années-là, c'est que cette agriculture s'est arrêtée et au lieu d'avoir une revente du domaine à un autre agriculteur qui continue l'exploitation, le domaine a été laissé à l'abandon. Mmh. Et le conservatoire du littoral, aidé par la fondation WWF, va racheter le domaine en 1989 pour en faire un site du coup protégé.
Pour le sanctuariser,
voilà.
Quoi.
Exactement. Mmh. Voilà. Alors sanctuariser, le mot est fort parce qu'il reste ouvert au public, etc.
Oui, oui, oui.
Mais pour en limiter les usages et aussi avoir une mission de protection de la biodiversité sur ces zones-là.
Oui. Alors c'est vrai que si on traverse, bon, il y a une route qui traverse une grande ligne droite et qui traverse ce marais d'Orx. D'ailleurs, c'est un des premiers chaussidoux qui a été mis en route là. Alors juste une petite question parce qu'en tant qu'usager, voilà, j'ai connu avant et après. C'est quoi le bilan de ce chaussidou ? Est-ce que ça a rendu la route plus praticable, moins dangereuse ? Est-ce que c'est mieux pour les cyclistes ou pas ? Ou alors est-ce que voilà, c'est juste deux bandes blanches qui ne servent pas à grand-chose ? Enfin, c'est une question personnelle.
Peut-être Paul donnera aussi son avis derrière. Ça protège mieux les usagers, oui. Clairement, on a une zone piétonne qui est quand même bien délimitée par rapport à la route. Donc déjà, les piétons maintenant sont mis en sécurité.
Oui.
Les vélos partagent la route.
Oui.
Mais c'est vrai qu'on a un marquage au sol qui est quand même bien présent, qu'on voit bien. Et alors... On le mesure pas, j'en sais rien, c'est un avis ressenti, mais peut-être que oui, les vélos du coup sont maintenant un peu plus à l'abri comparé à avant où il y avait rien du tout. Mmh. Et c'est vrai qu'on a quand même une ligne droite de 1,6 km où les gens du coup, la majeure partie des gens roulent assez vite sur ce tronçon-là. Et donc c'est vrai que c'était quand même essentiel de créer une zone dédiée à la mobilité douce, qu'il soit piétonne ou vélo.
C'est vrai, c'est le partage, hein. c'est le partage de la voie.
Et puis j'ajouterais, c'est quand même important aussi d'avoir des voies douces dans un espace comme ça protégé. Ça va tout à fait en accord avec une gestion.
Ça fait sens.
Tout à fait.
Effectivement. Oui.
Et c'est vrai que ça a augmenté le flux aussi des piétons qui finalement, les gens qui viennent se balader sur la réserve, bien souvent préfèrent faire une boucle qu'un aller-retour.
Quand on marche, quand on fait de la rando, en général, on préfère faire les boucles, on n'aime pas trop revenir sur nos... c'est une psychologie, voilà.
C'est vrai que nous, par rapport au sentier, à la découverte du site, on propose l'aller-retour jusqu'aux pompes pour que les gens puissent profiter à l'aller et au retour des observatoires et de voir ce qu'ils auraient pu louper à l'aller. Mais en soi, les gens, manifestement, préfèrent faire la boucle.
Oui, c'est vrai, c'est psychologique. Oui, c'est vrai que si on parcourt cette route, on arrive au fond, à droite, on va retrouver à un moment donné ces fameuses pompes qui datent depuis longtemps, hein, parce qu'il y a quand même une petite... on peut monter sur un escalier métallique et voir un petit peu le site d'ailleurs. Et puis il y a des petites plaquettes qui racontent un peu l'historique de cet endroit. C'est une époque où ces pompes, elles ne fonctionnent plus.
Si,
elles fonctionnent toujours.
C'est-à-dire que, donc, comme on l'a dit un peu avant, avant qu'on arrive sur l'époque agricole du Marais d'Ors, c'était un site... une zone humide totalement naturelle. Et après, il y a eu donc Napoléon qui est arrivé, qui a ordonné cet assèchement. Et puis, on a une agriculture du coup, qui s'est perdurée, je te l'ai dit, dans les années 80. Donc, avec un système de digues et de pompage. Ce système-là est toujours d'actualité, à la différence qu'il est mis au service de la biodiversité. Donc, les pompes, on les fait toujours fonctionner. Évidemment, elles ont évolué. Ce n'est plus celle de l'époque de Napoléon.
J'espère.
Mais aujourd'hui, elles vont nous aider à gérer le niveau d'eau. Dans la raison principale, c'est l'accueil de la vie faune principalement. On va gérer des niveaux d'eau différents en fonction des différents plans d'eau, ce qui va diversifier les hauteurs d'eau et les espèces d'oiseaux qui vont utiliser, qui ont besoin de hauteurs d'eau plus ou moins grandes, par exemple. Voilà. Et donc aujourd'hui, ça a plutôt cette fonction et aussi une fonction de le marais a aussi une fonction d'absorption des crues. Qui arrive de plus en plus fréquemment maintenant chaque année. Donc où l'eau, du coup, nous on laisse rentrer l'eau dans ces bassins et on va ressortir l'eau après progressivement grâce à ces pompes-là.
Oui. Alors cette eau, elle vient d'où ? C'est quoi c'est quoi qui se déverse dans ce marais pour le remplir, hein ?
Oui, c'est toutes les eaux du bassin versant qui en fait contournent finalement le marais pour se rejoindre au lieu dit la Patte d'Oie. C'est là où finalement les différents canaux de l'est, de l'ouest de la réserve se rejoignent et forment le départ du Boudigo pour aller se jeter à l'océan. Mais
d'accord.
Voilà, cette eau, elle arrive des bassins versants. Et quand on a un besoin, on peut la faire rentrer. Bien souvent, elle rentre parce que de façon, on le subit. C'est sur des inondations. Il faut, dans ce cas-là, ouvrir des vannes pour faire entrer l'eau et délester les canaux pour pas qu'ils engendrent des problématiques sur les digues. Mais en temps normal, elle ne fait que la contourner et elle arrive des bassins versants.
D'accord.
Et je rajouterais, le marais d'Ors se remplit lui, donc soit en ouvrant des ouvrages, soit directement la pluie qui tombe dessus va remplir le marais et c'est pas anodin, ça on peut prendre plusieurs centimètres d'eau des fois en une nuit. Donc ça se remplit comme ça.
D'accord.
C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de comment se portait le marais cet été. C'est les eaux qu'il y a eu, les pluies qu'il y a eu là ces dernières semaines là, ont quand même permis de monter le niveau de 10 centimètres sur des secteurs où il y en avait quand même besoin.
Ouais. D'accord. Très bien. C'est le moment de faire notre première pause. On va écouter un petit peu de musique, puis on va continuer notre discussion. On va parler un petit peu de ce qu'on trouve comme plantes et comme animaux dans ce bel endroit. Et puis aussi, vous inquiétez pas, on va aussi parler de ces fameux 30 ans. On se retrouve tout de suite après ça. Alors, on va détailler tout à l'heure un petit peu les événements qui arrivent. Mais bon, on a encore des choses à prendre sur le site lui-même. Qu'est-ce qu'il y a de typique dans cet endroit ? Qu'est-ce qu'on y trouve comme faune et comme flore ? Et je suppose qu'il y a certaines espèces qui sont plus rares ou et plus en danger que d'autres et c'est le bon endroit pour voir quoi et découvrir quoi chez vous ?
Ça dépend des moments, effectivement. Alors, on a tendance à avoir les effectifs d'oiseaux qui peuvent diminuer vraiment sur la période estival, mais le plus gros des troupes arrive chez nous en novembre jusqu'en avril-mai pour passer l'hiver. Mais en fonction de la période, il y a toujours des choses à voir. Donc soit il y a l'effet masse, donc beaucoup d'oiseaux sur les plans d'eau en hiver, ou alors des choses plus originales et visibles. Donc là, c'est le cas en ce moment et ça fait maintenant un mois qu'ils sont arrivés. C'est les Flamants Roses qui sont,
ah oui,
qui sont de retour.
Oui.
C'était un phénomène complètement, on va dire, isolé jusqu'avant 2022, où, mm-hmm, on avait un ou deux individus sur la façade atlantique, je,
ouais,
dis bien.
Oui,
et
rare.
Depuis 2020, on a eu finalement une arrivée d'une vingtaine de Flamants Roses, mm-hmm, le 22 septembre,
d'accord,
2020 précisément.
Ah oui,
et on s'en est rendu compte en embauchant. Voilà.
Ouais,
et
ouais,
c'est vrai que depuis ce phénomène-là, mm-hmm, on a annuellement des Flamants Roses et les effectifs augmentent d'année en année. Donc là, on bat tous les records et le record battu est encore mm-hmm, de ce matin, il est tout frais, puisqu'on a jusqu'à 147,
ah oui,
Flamants Roses visibles.
Ça peut faire du bruit, ça, en plus, quoi.
Ça peut faire du bruit, ça,
oui,
peut, ça amène de la couleur, des parades.
Oui.
C'est, voilà, c'est un côté très méditerranéen. Et on a d'autres espèces comme ça, qui, mm-hmm, méditerranéennes, qui font des bonds vers le nord et qui gagnent du terrain.
Bon, c'est un signe de réchauffement, tout,
c'est
ça.
C'est un signe de réchauffement, mm-hmm, en lien avec les états de population.
Mm-hmm.
C'est des phénomènes en même temps, on va dire, normaux. Hein,
mm-hmm,
voilà, ne pas confondre avec des invasions ou d'espèces invasives, notamment exotiques, comme, mm-hmm, ça, qui peuvent, elles, venir de la main de l'homme, par exemple, et, mm-hmm, après proliférer. Sur des espèces emblématiques encore, on a la cistude d'Europe, qui est une, mm-hmm, petite tortue européenne d'eau douce, hein, qui,
oui,
alors, qui commence à se faire un peu discrète à cette période. Hein. Le balbuzard pêcheur, qui est un aigle,
mm-hmm,
un aigle qui est bien présent sur le site maintenant toute l'année, puisqu'il se reproduit. C'est, mm-hmm, c'est en ça qu'on a fait un programme de conservation sur l'espèce, mm-hmm, depuis 2018. Et où on a installé une caméra sur le nid qui permet,
oui, voilà,
de suivre.
Il, oui, y a une caméra, ça, c'est chouette,
webcam,
ça.
Oui, ouais. On l'a sur ça, on l'a sur la cigogne blanche,
mm-hmm,
et on l'a aussi depuis mis en ligne depuis peu sur les paysages en soi depuis la maison du marais qui zoome un petit peu sur les milieux aussi, puisque,
mm-hmm,
c'est important d'avoir des vues
oui,
pour les gens.
C'est vrai, il faut aller sur le site web, hein, reserve-naturel-marais-orcs.fr. Alors déjà, vous trouverez plein d'informations. Il y a des photos, il y a bien sûr l'historique, toutes vos missions, il y a beaucoup de choses qui sont résumées. Et il y a effectivement l'accès à ces caméras. J'ai découvert, j'avais même pas vu qu'il y avait des caméras. Et donc ça, c'est le côté un peu voyeur, mais on peut voir juste le nid. Bon, quand j'ai regardé, il n'y était pas.
Oui, non, mais voilà, c'est, oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment des périodes pour ça. Là, il faut, sur ces espèces-là, il faut être à l'affût finalement entre mars et août, hein. Et après, ça se calme. Donc, il faut être patient. Donc, ouais, ça amène un peu de, pour ça que les autres vues peuvent être sympas et ça permet de voir le temps qu'il fait, de voir les oiseaux. Et tout ça, effectivement, c'est visible depuis le site internet où,
ouais,
il y a plein d'informations. Il faut pas hésiter à fouiller.
Oui, il faut y aller, ouais.
Romain peut vous en dire plus, je pense.
Oui, non, sur les caméras, je rajouterais quand même qu'on a la chance d'avoir ces caméras et c'est en partie grâce au département des Landes qui les a financées et l'entreprise YouSurf aussi qui assure la maintenance. Voilà, donc on devrait, nous, peut-être en avoir une troisième d'ici la fin de l'année. Voilà, et en effet, c'est sur le site internet et on en parlait tout à l'heure. Oui, on essaie de mettre pas mal d'infos sur le site internet, qu'elles soient très généraliste ou très précis sur les projets scientifiques ou comme ça. C'est un site qui existe depuis longtemps, mais il a été mis à jour ou remis au goût du jour, on va dire, a fait un petit lifting du site internet il y a deux ans, je pense, maintenant, à peu près, qui nous permet, voilà, d'avoir un accès à l'information beaucoup plus claire et aussi du contenu. Voilà, on pourra mettre un peu plus de contenu maintenant grâce à cette structure-là de site internet.
Très bien. Bon, il y aura le lien, bien entendu, dans le podcast, hein, pour que les gens cliquent et puis aillent découvrir votre site et notamment ces fameuses caméras.
Oui, excusez-moi, c'est aussi un outil pour nous. Puisque,
oui, un outil de travail,
puisque là, vous voyez, on est en pleine migration, on a le pic de migration de la spatule blanche qui arrive du nord de l'Europe.
Oui.
C'est une espèce grégaire, ça veut dire qu'ils migrent en groupe plus ou moins important, donc où ils sont assez visibles. Et ça nous permet même de checker les caméras aussi avant de partir sur le terrain, puisqu'on a vraiment un suivi sur cette espèce pendant un mois et demi, là, à fond, tous les jours. Mais voilà, ce sera l'occasion à ce que les auditeurs viennent nous voir pour qu'on leur explique tout ça de vive voix.
Bien sûr. Alors, on va parler d'un événement important, hein, puisque donc on en a parlé tout à l'heure, on a évoqué un petit peu les 30 ans de la réserve naturelle du Marais d'Orx. Et donc, il y a toute une série d'événements qui se déroulent du 19 au 21 septembre sur le site. Et donc, on va en parler. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver comme événement sur cette période ?
Alors, sur les 3 jours, l'objectif, il est de retracer un peu ces 30 ans. à travers plusieurs choses. On fait d'abord des visites guidées. Il y a trois thèmes qui sont proposés le vendredi, samedi et dimanche matin. Ça passe aussi par des conférences où là on va parler de suivi scientifique, mais pas que. On va aussi aborder toute l'histoire du marais et l'évolution des paysages sur cette grande zone là. Donc ça c'est plutôt les après-midi. Il y a deux conférences par après-midi. On va aussi avoir des ateliers. Alors là, c'est plus, il y a deux ateliers construction de nichoirs à oiseaux et de gîtes à chauves-souris. Là, l'idée, c'est, nous, réserve naturelle, évidemment, on protège et on favorise ces espèces-là dans l'enceinte de la réserve. Mais l'objectif aussi, c'est que les gens y contribuent et que cette protection ou ce côté aidant se propage autour d'une réserve naturelle. Donc là, l'idée, c'est de proposer aux gens de venir, de construire leur gîte avec nous et de leur donner tout un tas d'infos pour installer leur gîte chez eux, ils repartent avec. Exactement. On a aussi un atelier chantier participatif. Donc là l'idée ça peut être de l'arrachage d'espèces exotiques, ça peut être de l'entretien de certains milieux naturels, enfin tout un tas de choses comme ça. On l'a pas encore précisément défini, mais ce sera ce style là donc là l'idée c'est que les gens nous aident et participent à la gestion courante finalement et la protection d'un habitat naturel. Après on a pour finir sur les ateliers, il y a l'atelier origami aussi. Donc là on a un exposant qui vient, qui s'appelle Jonathan Rebouillat, qui lui fait de l'origami sauvage, je dirais,
oiseaux,
c'est le titre de son expo.
D'oiseaux, j'imagine des oies.
Exactement, ça va de l'ours jusqu'à la spatule blanche qui est typique de chez nous. Donc il a toute une réflexion autour de ça et il crée ses origamis qui sont de véritables œuvres. Donc lui il va aussi proposer du coup deux ateliers pour vous initier à ça. Il fera aussi une conférence d'ailleurs. Et on a donc justement des expositions. Donc Jonathan va exposer ses œuvres. Et on a aussi un petit groupe de photographes qui utilisent quotidiennement ou chaque semaine la réserve naturelle, qui sont très attachés à elle et avec qui même souvent on peut travailler parce qu'on échange beaucoup. Ils nous font remonter énormément d'infos puisqu'ils sont là tout le temps sur le terrain. Et donc eux, ils vont exposer 14 photographies faites sur la réserve naturelle. Et ils feront aussi une petite conférence pour eux, ce qu'on appelle l'apéro des photographes, qui se tiendra le vendredi soir à 18h, où là chacun va présenter une photographie et va vous expliquer ou vous transmettre un peu la passion ou le moment qu'ils ont pu vivre derrière leur appareil photo lors de la prise de vue.
Oui, c'est vrai que quand on se promène sur le marais d'Orx, on croise déjà des gens un peu bizarres, habillés des fois en camouflage, avec des engins énormes, avec des objectifs qui doivent peser des tonnes, et qui arpentent le marais, et qui se postent dans certains spots, et puis qui prennent des photos de très loin, avec leur téléobjectif.
Oui, c'est un peu par période. Alors c'est finalement, ils se cachent, ou ils sont discrets, ou ils viennent pas... en plein été parce qu'il fait trop chaud et puis il laisse place aux vacanciers. Et puis, sitôt que le temps change, là, ils arrivent. Et comme vous dites, en mode camouflage, avec des objectifs ou des appareils photo montés sur gâchette pour certains. Effectivement, il y a un partage qui est énorme et c'est très intéressant. Et on essaie absolument de garder ce lien-là avec eux.
Et oui, parce que en termes de, notamment l'organisation de ces 30 ans, mais en termes de fonctionnement, c'est quoi les partenaires de la réserve naturelle? Vous fonctionnez avec qui? Qu'est-ce qui vous aide? Vous dépendez de quel organisme?
Alors, la réserve naturelle, elle est, donc je disais en début, elle est propriété du Conservatoire du Littoral. Elle va être gérée par une autre structure qui est le syndicat mixte de gestion des milieux naturels, parmi lequel on a du coup pas mal de membres, dont le département des Landes, les communautés de communes, Max et Seignanx aussi. Voilà, et donc tout ça fait qu'on a une gouvernance assez diversifiée, je dirais. Et après, si on prend d'un point de vue financement, ça va être beaucoup le département des Landes, les communautés de communes aussi, finances, et après on a un gros volet aussi, c'est l'agence de l'eau, donc c'est l'État, l'État qui va donner via l'agence de l'eau, qui va aussi apporter du financement puisqu'on est réserve naturelle nationale et qu'il a une mission de financer en partie aussi ces réserves naturelles.
D'accord. Et alors oui, donc le programme, on va pas forcément parler de tout, mais c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes. Bon, bien sûr, on parle du Balbuzard pêcheur, hein, donc j'ai eu la chance d'en voir. Justement, un photographe m'a montré par son objectif, tiens, regarde, c'est un bel engin quand même, c'est un oiseau assez gros.
Ouais, c'est un oiseau de 1,70 m à peu près d'envergure. Donc effectivement, c'est une espèce qui fait partie, il existe en fait un plan national d'action en faveur d'espèces, un plan national, donc toute plein de mesures de conservation sont prises à l'échelle de la France, et pour cette espèce et un autre, le pigargue à queue blanche, qui est finalement le cousin du pigargue américain, qu'on voit en hiver, et pour ces espèces-là, voilà, il y a effectivement deux conférences sur lors de ces 30 ans, ces 3 jours, et le balbuzard est vraiment une espèce que les gens pourront encore voir sur site à cette occasion-là.
Très bien. Ah oui, alors il y a aussi quelque chose autour des chauves-souris, hein. Il y a une conférence, puis il y a une sortie nocturne. Bon voilà, c'est aussi un moyen intelligent de se débarrasser des moustiques, hein, plutôt que les insecticides quand même, non ? Parce que je pense qu'elles doivent en manger pas mal, non ?
Oui, ça, une seule chauve-souris peut manger plusieurs centaines de moustiques par nuit. Voilà, alors après, il ne faut pas se dire que non plus les chauves-souris vont nous débarrasser des moustiques.
Non,
moins des moustiques tigres, parce qu'ils sont vraiment au sol, dans le côté buissonnant et pas en plein air, dans lequel chassent les chauves-souris. Mais c'est sûr que c'est un allié de ce point de vue-là, évidemment.
Bien sûr. On ne va pas adopter une chauve-souris à la maison, l'adresser pour sauvegarder le jardin. On n'en est pas encore là.
Non, et puis ce qui est intéressant, c'est là où on trouve le marais très beau, très diversifié, tout ça. On se rend compte qu'effectivement, ces étangs sont très productifs en termes d'insectes. Et vous avez des milliers d'hirondelles pendant la migration qui viennent manger ces insectes-là. Et la nuit, c'est à l'inverse, c'est les chauves-souris qui prennent la place, mais qui peuvent arriver des fois des villages alentours, comme les martinets et les hirondelles. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance du site, même pour les populations locales autour. Je parle alors des populations d'oiseaux, mais finalement des populations. Pour nous aussi, on est content d'avoir le marais finalement quand on vient se balader.
Et oui, j'imagine.
Voilà. Je rajouterais, elles viennent des alentours, mais on a des chauves-souris qui viennent de beaucoup plus loin, parce qu'ils viennent des Pyrénées.
Ah oui.
On a précisément le molosse de Sestoni, qui est une très grosse chauve-souris, qui est plutôt inféodé, nous en tout cas ici dans le sud-ouest, aux Pyrénées, et il a été détecté en chasse sur le marais d'Orge. Donc c'est un individu qui serait arrivé en une nuit des Pyrénées et qui serait reparti.
Il y a peut-être un Goémio chez les chauves-souris, et le marais d'Orge c'est parti des trois étoiles en disant venez manger nos moustiques. Ça les a attirés peut-être.
Non, mais c'est vrai qu'à travers le suivi de toutes ces espèces et finalement le cœur de notre métier, on se rend compte que le marais d'Orge c'est une place très importante à l'échelle européenne finalement. En termes de contexte de halte migratoire, de site de reproduction.
Voilà, c'est un lieu de passage.
C'est un très très gros lieu de passage, mais on parle des oiseaux, ça peut être des papillons qui migrent, ça peut être les chauves-souris. Il y a vraiment tout ça. Donc on essaie à travers des exemples d'espèces qu'on a choisies à travers des conférences de vous raconter tout ça. Alors c'est vrai que pour les conférences, il reste de la place. Autant pour les visites qui sont organisées pendant ces 30 ans, les places sont déjà pleines. Mais c'est l'occasion quand même pour les gens de venir sur site, de rencontrer les gardes, de découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas le marais, de venir nous voir.
Il y a une saisonnalité dans la fréquentation, vraiment, il y a l'été du monde qui vient,
du public.
C'est sensible.
On en a un peu toute l'année, mais c'est vrai que juillet-août concentre énormément. Juillet-août, c'est entre 10 et 12 000 personnes par mois sur le marais d'Orx. Après, ça s'étale un peu plus. En tout, on a 65 000 visiteurs environ sur l'année. Mais c'est vrai qu'on a un public d'ornithologues qui, du coup, vient plus en hiver, etc. On a pas mal de personnes européennes aussi, qui viennent du Royaume-Uni, d'Allemagne, etc. qui s'arrête au marais d'Orx. Mais oui, évidemment, en juillet-août, concentre beaucoup.
Alors, je reviens sur ce que disait Paul, là, ce lieu de passage, du coup, comment dire, en sauvegardant cet endroit, vous sauvegardez pas que la zone autour du marais d'Orx, mais enfin, du coup, tout un système qui est allé depuis des fois des siècles sur des milliers de kilomètres.
Oui, bon, mais là, on parlait tout à l'heure de la spatule, et je veux pas tout dévoiler, parce que notre autre collègue... Florent Lagarde, qui est référent ornithologue comme moi sur le site, vous en parlera lors de sa conférence, mais c'est vrai qu'on accueille la spatule blanche, et notamment on est sur le pic de migration, et on se rend compte qu'à travers un protocole hyper adapté, on arrive à évaluer les quantités d'oiseaux qui passent sur le site, et là on peut avoir quand même des sacrées surprises.
Ah, très bien, ouais. Bon, tout ça, ça fait un petit ou même un grand écosystème, hein, parce que là, on parlait de la biodiversité, c'est ça. Il y a des insectes, il y a des animaux qui mangent des insectes. Là, il y a des poissons, il y a des oiseaux, il y a des plantes aussi. Donc, c'est vraiment un petit monde à part. Et alors, dans mon flash info local, je parlais de problème d'invasion par la Russie et le... Comment il s'appelle l'autre, le...
Myriophile,
voilà.
Du Brésil.
Dans les étangs, là, à Dax. Mais bon, je suppose que ça fait partie de vos ennemis aussi, tout ça.
Oui, c'est d'ailleurs un des premiers sites où la Russie est apparue dans le sud-ouest. Et bien souvent, à tort, le marais d'orques c'était connu plus sur cette fameuse plante qui s'était propagée vraiment partout sur le site. C'est une espèce qui est problématique, certes. C'est une espèce qu'on traite encore annuellement via les canaux de ceinture qu'on arrache avec des saisonniers pour assurer le bon écoulement des eaux. Et à l'intérieur des plans d'eau, finalement, on n'y fait plus rien parce que c'est effectivement trop coûteux. Mais on se rend compte avec le temps et la gestion fine des niveaux d'eau qu'on a pour permettre aux espèces de s'installer, qu'une évolution se fait et on peut parfois avoir de bonnes surprises. Alors les bonnes surprises, c'est quoi? C'est que la Russie, en fait, en mourant l'hiver, crée un matelas de végétation qui permet à d'autres plantes ou graines de s'installer dessus et à prendre finalement le dessus. On a un autre plan d'eau où finalement ces herbiers aquatiques sont stables et ils permettent de fixer une plante carnivore aquatique qui est vraiment européenne, qui n'est pas une introduite, de proliférer, je dirais presque, parce qu'on est tellement surpris de voir le nombre qu'il y a qu'on voit l'effet positif qu'elle peut avoir. Je reste très prudent au cas par cas qu'on peut parler de ça.
Mais c'est bien d'avoir d'entendre votre vision avec du recul. Hein. Oui. Comme je vous ai dit hors antenne, la conservatrice de l'étang noir m'avait dit aussi que l'invasion des écrevisses rouges, là, c'était pas forcément une catastrophe, dans le sens où ça amenait aussi des proies pour des animaux qui étaient bien contents de les avoir. Et donc, en fait, des fois, c'est vrai que c'est pas tout noir ou tout blanc dans la nature, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense que vous êtes bien placé pour le savoir.
Oui, c'est ça, c'est tout un tas de... On parle d'écosystème, donc dans un écosystème, c'est tout un tas de relations entre plantes, animaux et tout ce qui est abiotique aussi. Donc, ça reste très complexe et on va dire que quand on parle d'un sujet, c'est parfois ni tout blanc ni tout noir et c'est souvent gris, en fait.
C'est ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux laisser parler aussi les gens qui savent de quoi ils parlent. Parce que
oui, on est témoin et on prend note de ce qui se passe et de ce qu'on voit. Oui, l'écrevisse a un impact important sur le pied de digue dans lequel elles font les galeries. Oui, elles peuvent faucarder des plantes et des fois, pas les plantes exotiques envahissantes, mais des plantes locales qui sont en voie de disparition. Elles peuvent prédater les larves de libellules et en même temps, en proliférant, elles procurent une ressource alimentaire énorme pour tout ce qui est chassier, poisson aussi. Oui. Donc voilà, il y a du bon et du pas bon.
Et le problème reste le nombre et la place qu'elles prennent, finalement.
Oui, bien sûr.
Et l'accès à la nourriture. Par exemple, il y a des endroits où, sur le site, où elles seront difficilement prédatables prédatée par des espèces, alors que sur d'autres, l'accès, les niveaux sont plus bas, donc il y aurait une forte prédation sur les crevisses.
D'accord. C'est très intéressant tout ça. Malheureusement, il faut faire une dernière pause pour attaquer la dernière partie de l'émission. On aura encore un petit peu de temps parce qu'on a encore des choses à raconter, notamment sur cet anniversaire, parce qu'il y a, il y a plein de choses, notamment un concert nocturne. Alors ça, il dit, qu'est-ce que c'est ce bazar, un concert nocturne en plein marais? Mais vous allez voir, ça a été pas fait par hasard, on va pas faire peur aux oiseaux. On se retrouve tout de suite après ça. Et nous voilà pour la dernière partie de cette émission. Donc, comme j'en disais tout à l'heure, il y a les insolites, les concerts nocturnes dans le marais d'Orx. Alors, c'est quoi?
Alors, le concert, il est organisé par la communauté de communes La Max. Ça rentre dans le cadre de leur événement annuel Les Insolites, justement. Et donc, ce concert vient se grouper à notre événement et aux Journées Nationales du Patrimoine aussi. Et donc, ça se tiendra samedi soir. Et là, en fait... En effet, vous l'avez précisé tout à l'heure, l'idée, c'est pas de faire un concert en plein air dans une réserve naturelle.
Non.
Alors déjà, on est en bordure, on est juste aux portes de la réserve naturelle. Mais c'est surtout qu'en effet, la compagnie qui va se produire, c'est la compagnie des musiques télescopiques, qui font de la musique électronique et qui procède. En fait, le concert se fera sous casque. Donc le public auront tous, du coup, chaque personne aura un casque sur la tête. Et du coup, il n'y a aucun son qui est émis dans l'air.
Voilà.
Donc aucun dérangement audio. Sur la réserve naturelle.
Ça semble logique.
Ouais, tout à fait. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi avec cette troupe là, c'est qu'ils composent donc eux-mêmes leur musique et qu'ils composent leur musique grâce à des sons aussi qu'ils enregistrent en pleine nature.
Et oui, voilà.
Donc c'est ça aussi l'intérêt qui fait sens aussi.
Très bien. Et bon, ensuite il y a plein d'autres choses à parler. Je compte sur vous pour ça.
Oui, on a parlé des conférences très, très scientifiques ou histoire tout à l'heure. On en propose une autre aussi qui est le dimanche matin, qui va parler, elle s'appelle « Et si la nature avait un prix ?» Donc elle va parler un peu des services écosystémiques que peut rendre une zone humide protégée. Et c'est un travail qui a été évalué sur la réserve naturelle du Marais d'Ors il y a quelques années et qui permet, sans vous dévoiler toute la conférence, qui permet de savoir en fait cette réserve naturelle là, sur le territoire dans lequel elle est, qu'est-ce qu'elle peut générer d'une manière économique, voilà, au sens large, tout autour d'elle, quoi. Voilà.
Très bien.
L'idée, ça serait de venir assister à toutes les conférences, parce qu'en fait, il y a un fil entre finalement toutes les conférences à travers le choix des espèces qu'on a fait, et aussi bien la nature avec un prix que celle sur l'histoire du site, puisque aujourd'hui, enfin, quand on voit le site aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer de quoi on part, en fait. Et notre collègue se ferait une joie de partager ça avec vous, et avec des images quand même assez marquantes de l'évolution du paysage aussi, quoi.
Très bien, oui.
Oui, en regardant, Paul parle d'images. En fait, on a notre collègue, l'histoire, c'est son truc, il aime beaucoup ça. Et en fait, il a fait un travail aussi avec les archives départementales, où il a retrouvé beaucoup de vieilles cartes du Marais d'Ors et des alentours. Et on a aussi tout un tas, comme disait Paul, de photos, mais qui sont très anciennes finalement. Et on voit cette évolution finalement. En images et pas juste sous des paroles ou ce qu'on pourrait nous raconter, quoi.
Oui, bien sûr. C'est vrai, comme je disais tout à l'heure, on peut voir des photos sur votre site internet, notamment on voit des photos aériennes, on voit que c'est des cultures, et puis on voit bien plus tard, du coup, c'est recouvert en grande partie par l'eau et c'est devenu un marais. Voilà, donc c'est. D'ailleurs, je mettrai le lien, je l'ai déjà dit, mais voilà, je mettrai le lien pour que les gens
puissent y aller. Oui, puis il y a tout un tas d'anecdotes aussi de l'époque, parce qu'on a fait un travail aussi, on a été un peu interviewé à notre manière, des gens qui avaient vécu sur le marais à l'époque agricole, qui ont vu cette évolution, qui ont aussi vécu la guerre, puisque on retrouve aussi sur le plan d'eau de casemates, donc c'est les cabanes en béton qui se trouvent au milieu de l'eau. Ça, c'est les vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on a récolté des témoignages de toutes ces personnes-là qui avaient vécu sur le marais avant que nous, finalement, on y arrive et on travaille dessus. Quoi.
Oui, et les gens qui connaissent le marais que d'aujourd'hui, finalement, sont persuadés qu'ils ont affaire à deux observatoires en pierre au milieu de l'eau ou des reposoirs à oiseaux,
mais
en aucun cas des restes, des vestiges de la Seconde Guerre mondiale.
D'ailleurs, c'est vrai que le marais, globalement, a l'air scindé en deux par cette route. Il y a la partie à droite, c'est la partie où on fait le plus d'observations et tout. La partie à gauche a l'air un peu plus laissée tranquille, il y a plus d'eau, le niveau d'eau est plus grand, il me semble d'ailleurs, quand on est sur la route, on a l'impression que le niveau est plus haut, non ?
Oui, c'est ça, dans chaque plan d'eau, nous on gère un niveau différent, comme j'ai expliqué un peu, pour créer des conditions différentes et favorables à tout un tas d'oiseaux, mais pas que d'oiseaux d'ailleurs, on parle de poissons, de plein de choses, et en effet toute la partie nord, je dirais, par rapport à cette route, en fait elle est fermée au public. Le site du Marais d'Ors, en gros vous avez environ sur tout le site la moitié qui est ouverte au public, où le public peut se balader librement sur les sentiers bien balisés évidemment, et toute la partie nord, qui représente à peu près la moitié, est fermée au public toute l'année, donc on a vraiment une préservation en termes d'usage et de dérangement. Et donc il y a des milieux où on va les laisser évoluer très rapidement, je dirais on va les laisser évoluer à très long terme, on va pas forcément y toucher, créer des vieilles forêts, des vieux milieux, et d'autres qu'on va un peu rajeunir pour créer voilà, cette diversité des milieux. Et, mais ça, on le fait, je dirais, sur la partie nord comme sur la partie sud.
Mmh. Et c'est vrai que ces différentes entités, finalement, entre le plan d'eau du sud, celui au-dessus, les grandes prairies, on a vraiment une complémentarité d'un espace à l'autre pour les espèces. Et finalement, on a pas mal d'espèces qui accomplissent des cycles très différents en occupant les différentes unités du site. Et voilà.
D'accord. Alors, on va rappeler quand même que c'est de 19 au 21 septembre. Hein. Mmh. Alors, je n'ai pas les horaires en tête. C'est dès le matin, le 19
Oui, dès le matin, vers 9h30, les expos ouvriront. Alors, les visites démarrent à 9h30, pardon. Mmh. Donc, le vendredi, ça démarre là. Et ça se terminera le dimanche à 17h. Les halls d'expo, etc., commenceront à fermer à partir de 17h.
Ouais, donc, il y a deux nocturnes le vendredi et le samedi. Hein. Il y a des événements nocturnes. Voilà,
c'est ça.
Et le dimanche, relâche quand même.
Oui, c'est ça.
Parce qu'il y a lundi après dimanche.
Il fallait bien mettre une fin, on aurait aimé faire un événement une année peut-être entière. Mais voilà.
Peut-être un événement récurrent qui aura lieu tous les ans, un petit truc peut-être.
Alors,
un petit événement,
tous les ans, on a initié il y a peu ce qu'on appelle la journée des réserves. Mm-hmm. En gros, c'est un peu les portes ouvertes des réserves de chez vous. Nous, le syndicat mixte, il gère trois réserves, le Marais d'Ors, la réserve d'Arjusan et de l'Étang Noir. Et donc chaque année, ça tourne. Vous avez les équipes des trois sites qui se regroupent sur un site. Mmh. Et donc chaque année, ça change de site.
D'accord.
Pour faire porte ouverte et vous proposer des choses.
Mmh. D'accord.
Une journée par an.
Oui, juste pour, du coup, pour rappeler, enfin, on invite les auditeurs à aller consulter le site internet ou le site, enfin, ou les réseaux Facebook de le site Facebook de la réserve, pardon, pour voir le programme, sachant que voilà, comme on l'a dit, il y a déjà des places qui sont, enfin, il y a plus de places pour les pour certains créneaux.
Pour les visites et le concert.
Ouais, c'est ça. Par contre, on invite encore une fois de plus les gens à venir. Voilà. On a même entre midi et deux, du coup, le pique-nique tiré du sac où les gens peuvent amener finalement leur petit casse-croûte et on va essayer de partager un moment convivial à travers les échanges sur les pauses du midi.
On offre le café après le pique-nique.
Ah, bon, c'est très bien.
Voilà.
Ben, monsieur, merci beaucoup d'être venu nous parler du bel endroit. Moi, je pense que vous avez de la chance de faire le métier que vous faites. Enfin, voilà, c'est l'impression que j'ai. Parce que voilà, vous avez l'air de bien le connaître, de l'aimer et d'être heureux d'y travailler. Et ça donne envie. Je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui n'ont pas encore eu l'idée d'y aller. Je pense que voilà, il y a des gens qui vont venir. Et puis voilà, donc du 19 au 21, n'hésitez pas. C'est vraiment le moment ou jamais de visiter le Marais d'Orx. Voilà, ouais. Merci messieurs, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.